Bonjour à toutes et à tous. Le journalisme, vous le savez bien, a ses rites, ses cérémonies, ses liturgies, en général parfaitement huilées. Mais parfois, il peut arriver qu'un grain de sable vienne en bloquer la mécanique et en souligner les ficelles, en général invisibles. Je reçois aujourd'hui un de ces grains de sable, Khadija Toufik. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Tu es journaliste indépendante et tu as récemment perturbé deux éminentes institutions du journalisme audiovisuel actuel. D'abord, une interview de Paul Larouturou, journaliste à Radio France et à France Télévisions. Et ensuite, quelques jours plus tard, les Assises du journalisme de Tours, où tu es aussi allé faire le grain de sable pour bloquer la liturgie. Ce sont deux interventions qui ont eu un écho assez fort sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Alors, on va revenir sur ces interventions et sur le reste de ton métier, parce que tu ne fais pas que ça, en fait. Tu fais aussi du journalisme de terrain, aussi étonnant que ça puisse paraître. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qui es-tu? D'où viens-tu? Voilà.
Eh bien, moi, c'est Khadija Toufik, donc j'ai 30 ans et je suis reporter de guerre, entre autres. J'ai intégré la prépa La Chance en 2021, donc une prépa qui prépare les étudianteux boursiers, boursières en école au concours des grandes écoles de journalisme.
Parce que tu es boursière, puisque tu viens des quartiers populaires de Toulouse.
Oui,
hein. Tu as grandi dans les quartiers populaires de Toulouse.
Oui, tout à fait. Et plus précisément, j'ai grandi dans une cité qui s'appelle Empalo. Je suis très, très contente de la nommer aujourd'hui parce que j'estime que je reviens de très loin. Donc une cité effectivement vraiment reculée de la ville de Toulouse où on n'a pas grandi, disons comme voilà, on n'a pas grandi dans les beaux quartiers. Donc un métier très éloigné de moi, de ma famille, un métier que je pensais inaccessible, réservé à une élite. On n'avait pas forcément de représentation à la télévision. Voilà, on regardait beaucoup les journaux télévisés de Claire Chazal, de PPDA.
C'est-à-dire que tes modèles s'appelaient Claire Chazal et PPDA.
Voilà, moi c'est tout ce que je voyais.
Il y a eu du chemin de parcours.
Exactement. Et puis après, petit à petit, on a eu quand même droit à Harry Roselmack, donc un homme noir. Et c'était là pour le coup, c'était vraiment la seule personne qui représentait peu ou prou ce que j'étais, où je pouvais m'identifier.
Tu te sentais représentée. Donc, grâce à cette prépa, tu passes les concours des écoles, tu décroches un concours.
Oui, même plusieurs à l'écrit, et je choisis l'Institut pratique du journalisme de Paris-Dauphine.
D'accord.
En alternance.
Donc scolarité de journaliste. Et,
oui, voilà. Mais avant, j'ai fait autre chose. Hein. J'étais commerciale, j'ai fait des études de commerce. Exactement, oui.
Qu'est-ce que tu as vendu?
Des services. J'étais dans le B2B. Donc, je vendais des services de prospection et des services de recrutement.
Tu vois, des services de recrutement.
Voilà, ouais.
bon, et derrière l'école, donc, tu décroches une alternance à France Télévisions.
Voilà, c'est ça, ouais.
Voilà, dont on reparlera en détail, parce que cette alternance à France Télévisions a été assez marquante dans ton parcours. T'es pas embauché?
Non, pas immatriculé même. Donc, c'est-à-dire qu'on
pas se... immatriculé.
Oui, parce qu'à la fin d'une alternance à France Télévisions, on est immatriculé, c'est-à-dire qu'on peut commencer à travailler en région, on peut nous rappeler pour éventuellement, voilà.
Est au planning, comme on dit. On parle toujours du planning.
On parle de planning et surtout d'immatriculation que je n'ai jamais eue, malgré effectivement les bons commentaires dans mon livret d'apprentissage.
Bon, alors on fait du teasing, mais on racontera tout à l'heure pourquoi tu n'as pas été immatriculé. Et derrière ton alternance, donc tu vas faire plusieurs séjours en Israël et dans les territoires occupés en Cisjordanie.
Tout à fait, en Palestine également. Je commence à y aller un petit peu dès juin 2023, une semaine pendant des vacances que j'ai réussi à décrocher.
Pour ton compte, en fait. Voilà. T'es pas missionné par un média?
Absolument pas. J'y vais parce que je me prépare en fait inconsciemment à aller travailler sur ce terrain-là. Donc j'y vais un petit peu en juin, deux semaines en juillet 2023. Et ensuite, lorsque mon alternance se termine, j'y retourne en septembre 2023, un aller sans retour.
Alors, on reviendra sur toutes ces étapes de ta carrière, mais on va peut-être commencer par les plus récentes, celles qui m'ont décidé à t'inviter, qui t'ont donné une notoriété importante, on va dire, sur les réseaux. Alors, ta première intervention, c'est autour d'une conférence de presse de Rima Hassan, dont il faut situer un peu le cadre. Rima Hassan vient de subir une garde à vue. Une garde à vue pour soupçon d'apologie du terrorisme et de détention de drogue. Et donc, au sortir de sa garde à vue, elle donne une conférence de presse. Tu décides d'y aller?
Oui. sachant que j'avais décidé en plus de mettre en retrait, de prendre quelques jours parce que ça faisait déjà 3 ans que je travaillais sur un terrain vraiment très difficile psychologiquement qui m'a beaucoup éreintée. Et donc, j'avais décidé voilà, de faire un break. Mais en fait, on n'a pas trop le temps de faire des breaks quand on est journaliste. Donc, il a fallu y aller, étant donné que j'avais été quand même assez choquée du manque de professionnalisme, d'éthique, de déontologie journalistique de la part de grands médias
pendant
comme BFM.
Pendant la garde à vue.
Pendant la garde à vue, effectivement, j'ai pu voir qu'il y avait des fake news qui circulaient. En tout cas, moi, tout de suite, j'ai été très, très... j'ai fait très attention, en fait, à l'information que je recevais tout de suite. Et j'ai mis un contexte dans tout ça.
La fameuse fake news de la détention de drogue.
De la détention de drogue.
Qui a donné matière à 12 bandeaux successifs sur BFM.
Oui, oui. Ils sont même posé la question de ce qu'était la cathione. Donc, le cat, on dit le cat ou la cat. En tout cas, c'est une plante qui est consommée surtout au Yémen et qui a des effets, psychotiques. Je ne suis pas spécialiste en drogue.
Non, mais on a tout su. Enfin, moi, j'ai pas retenu, mais on a tout appris sur, effectivement, les drogues de synthèse, les drogues dures. Avant, plusieurs jours plus tard, le parquet décide de le classer l'affaire sans suite parce que, en effet, les substances qui ont été trouvées dans la valise de Rima Hassan n'étaient pas des substances illicites.
Voilà. Oui, tout à fait. Elle détenait uniquement du CBD. Mais en tout cas, moi, tout de suite, j'ai pris des distances, en tout cas avec ce que disait BFM TV, notamment, d'autres plateaux télé.
Oui, je n'étais pas la seule.
Oui.
C'était pire sur CNews. Hein.
Oui, évidemment. Je ne les cite même plus, mais effectivement, ouais, j'ai pris de la distance, j'ai remis un contexte. Voilà, faut savoir que c'est une.
Dans tes tweets, tu veux dire ?
Non, moi-même. C'est-à-dire que j'y ai pas cru. J'y ai pas cru tout de suite. J'ai pris de la distance. Et normalement, on est censé croire quand même les médias ce que nous disent. Les...
Bon.
Bah oui,
tu peux me répéter ça ?
On est censé croire l'information qu'on nous livre parce qu'on a quand même des journalistes qui détiennent une carte de presse et qui font ce travail. J'espère un peu.
Attention, c'était une séquence. Ironie. Ne prenez pas ce que vous venez d'entendre au premier degré. En vrai, elle ne le pense pas vraiment. En fait.
On est censé. C'est pour ça que je dis qu'on est censé les croire. Mais effectivement, non, mais j'ai pris de la distance.
Bon. Et donc, la conférence de presse se déroule. Et à un moment, dont Paul Larot� qui est journaliste à France Télévisions et à France Info, pose une question et tu interromps cette question. On écoute.
Est-ce que c'est un génocide aussi ? Parce que ça, c'est quelque chose que les médias, les grands médias, vous n'avez jamais relevé.
Qui êtes-vous, madame ?
Qui êtes-vous ? Je suis journaliste. Voilà, journaliste indépendante. Pendant 2 ans, vous avez récupéré la propagande de Benjamin Netanyahu, qui est recherchée par la Cour pénale internationale. Et le mot génocide, vous avez vraiment beaucoup de mal à le mettre.
Voilà, alors, qui êtes-vous, madame ?
Oui.
Je suis journaliste. Qu'est-ce que dit ce bref échange ?
Ce que ça dit, ça dit beaucoup du mépris aujourd'hui de ces grands médias et du service public. C'est encore pire. Donc, qui êtes-vous, madame ? Effectivement, là, je pense qu'il y avait une volonté pour Monsieur Larotširu de me décrédibiliser, de me retirer cette identité de journaliste. Je veux dire, j'avais mon Sony A7. 4 autour du cou, je suis en train de filmer, je ne suis pas derrière la table.
Faut dire que tu interromps un peu sa question quand même, parce que quand tu l'interromps, il est en train de poser une question à Rima Hassan.
En fait, il a posé la même question et c'était presque de l'acharnement, je dirais, c'est pas du tout du journalisme. Faut poser aussi le cadre et le contexte, c'est-à-dire que quand il est arrivé dans la salle, tout de suite après que l'avocat de Madame Hassan se soit exprimé, il a voulu tout de suite poser ses questions sans vouloir écouter d'abord à ce qu'avait à dire quand même le principal, protagoniste de l'affaire, donc Rima Hassan. Et effectivement, j'ai trouvé ça un peu anti-journalistique de venir et de ne pas vouloir écouter les personnes qui sont concernées par ce sujet.
Alors, il a expliqué ensuite, c'est parce qu'en fait, il avait son tournage à lui de l'émission
C'est à vous.
Derrière. Donc, il était obligé d'avoir... sa séquence tout de suite. Quoi.
Oui, ça peut s'entendre aussi, mais je veux dire, il y a des manières de faire quand on arrive et qu'on prend tout l'espace et qu'on n'écoute pas et qu'en plus la question n'est pas... Voilà, c'est pas une très bonne question. En tout cas, moi, je maîtrise quand même ce sujet. Effectivement, la question aujourd'hui de savoir si c'est du terrorisme, de la résistance, tout ça, ça doit rentrer dans le cadre d'un débat. On ne pose pas ce type de questions après que Madame Hassan a été diffamée.
On va écouter, parce que c'est même pas une question, c'est un échange.
Oui.
Il pose plusieurs fois la même question. On écoute la manière dont il pose la question.
Madame l'eurodéputée, votre avocat assure que c'est une citation. J'ai votre tweet sous les yeux, il n'y a aucun guillemet. Et quand vous tweetez « J'ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne tant qu'il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit mais un devoir », donc c'est une citation, ça, donc sans guillemet. Est-ce que pour vous, Kozo Okamoto est un terroriste, oui ou non ?
Vous viendrez au procès du 7 juillet et vous pourrez assister à toutes les observations qu'on pourra produire. On est là pour commenter ce qui s'est passé hier.
Est-ce que pour vous, c'est un terroriste ou pas ?
Vous êtes invité à une conférence de presse qui porte sur ma garde à vue et sur...
En conférence de presse, il faut répondre aux questions du coup. Est-ce que c'est de la résistance ou est-ce que c'est du terrorisme ?
On a déjà répondu sur le fait que...
Si vous êtes là pour faire du buzz, philosophique, vous viendrez au procès du 7.
Alors, qu'est-ce que tu reproches ? Parce qu'en fait, on dit souvent, les journalistes, c'est bien qu'ils exercent un droit de relance. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand ils ont un politique qui ne répond pas à leurs questions, ben, ils la reposent, et ils la reposent encore, et ils la reposent encore, jusqu'à ce que le politique réponde. Ben, c'est ce qu'il est en train de faire, en fait.
Oui, 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 tout à fait.
C'est une mauvaise question.
C'est une mauvaise question parce que sa question ne se prête pas en fait au contexte dans lequel on est. C'est-à-dire que ce type de question, il faut pouvoir la poser quand on est dans un débat pour parler de résistance et de terrorisme dans ce cas-là. Et aussi parce qu'il faut savoir un petit peu balancer, faire un peu la balance de tout ce qui se dit maintenant en plateau et dans nos écrans. On le sait, je vais le dire clairement, c'est-à-dire que les Palestiniens, celles et ceux qui luttent, celles et ceux qui sont enrôlés dans une résistance armée, parce qu'on parle aussi de résistance armée, et aujourd'hui c'est devenu un gros mot, on ne peut même pas l'employer, alors que ça fait aussi, c'est aussi, je dirais, accepté dans le cadre du droit international. Il y a beaucoup de choses, en fait, dans un contexte d'occupation,
oui.
De génocide.
Oui, c'est-à-dire voilà. Que ce que tu reproches à son questionnement, c'est d'être trop abrupte.
Non, c'est pas d'être trop abrupte, mais on sent qu'il y a qui maîtrise pas le sujet. Il maîtrise pas le sujet.
Pourquoi tu sens ça ?
Mais parce que
moi je l'entends.
Ces questions-là, il ne la pose, par exemple, il ne la posera jamais à Olivier Rafovitch, porte-parole de Tsahal, ou il ne la posera jamais à des personnes qui tiennent des propos génocidaires à Gaza. Ça, ces questions-là, on les entend jamais. Est-ce que c'est du terrorisme ou est-ce que c'est de la résistance, le génocide à Gaza et tout ces 72 000 Palestiniens massacrés ?
Faut rappeler ce qui est reproché à Rima Hassan, c'est donc un tweet dans lequel elle faisait allusion à un attentat terroriste en 1972, je crois, sur l'aéroport de Tel Aviv, par un terroriste japonais, qui avait fait une trentaine de morts, dont, je crois, 28 pèlerins originaires d'un pays lointain qui m'échappe pour l'instant, mais qui n'avait rien à voir avec Israël. Qui venait en pèlerinage.
Oui, oui, tout à fait. Mais voilà, encore une fois, il faut un débat pour pouvoir parler de tout ce qui est résistance, génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, occupation, colonisation. Je veux dire, il y a un moment donné, on sent que de plus en plus dans ces médias mainstream et notamment au service public, il y a vraiment une indigence, une pauvreté intellectuelle et on sent que les sujets ne sont pas maîtrisés, ne sont pas pris au sérieux. Je vous dis ça parce que moi, ça fait 3 ans maintenant que je travaille en Palestine et en Israël. Donc j'ai vu des choses, j'ai vu comment les populations vivent et comment elles sont criminalisées, comment on criminalise beaucoup les Palestiniens. Et il y a un décalage, il y a vraiment un fossé entre la réalité et ce qui se dit et comment est traitée l'information sur les plateaux télé et à la télévision.
Et ce fossé, tu le découvres ?
Non, je ne le découvre pas.
Quand je t'entends parler, on a l'impression que tu es en train de le découvrir, alors qu'effectivement, tu as été alternante à France Télévisions, donc tu as vu à l'intérieur des rédactions comment ça se passe et quelle est la mentalité.
C'est pour ça que je me suis permise de le reprendre, parce que je sais comment ça marche, je sais comment ça fonctionne, je sais qu'il y a un formatage, qu'on est codifié, il y a des diktats, il y a des sujets qu'on peut traiter et d'autres qu'on ne doit pas traiter, il y a des personnes qui ont droit à la parole et d'autres non. Donc moi, je sais comment ça marche, j'en ai vu beaucoup et depuis petite, de toute façon, je savais très bien que ça allait être compliqué pour nous, notre génération, ces journalistes issus de l'immigration, enfin en tout cas cette génération post-coloniale, post-immigration, juste voilà, pour le dire quand même, et je savais que c'était compliqué parce que en fait, ça reste un entre-soi, cet univers médiatique, c'est un entre-soi, c'est des gens qui sortent pas beaucoup de leur bureau. Et donc,
Ce qui est un peu injuste pour La Route du Route, qui a été pendant plusieurs années un reporter politique de terrain. Qu'est-ce qui te fait rire ?
Non, c'est pas ça. J'ai lu un petit peu, effectivement, ce qu'il avait fait.
Il a fait du terrain.
Il a fait un peu de terrain. J'invite en tout cas les personnes à lire, justement, un papier qui lui est consacré dans Blast, qui s'appelle le Boxing Day. qui reprend justement un petit peu son parcours. Et donc, bon, c'est pour ça que je me suis permise
de... Il a fait du terrain que font les journalistes politiques, c'est-à-dire gros des meetings et des couloirs de partis politiques.
Heureusement qu'ils sortent un petit peu.
Mais voilà. Alors, j'ai vu aussi que dans t'as tweeté cet échange, là, cet extrait vidéo, et tu lui reproches son sourire.
Oui, ça je...
Quand tu dis « je suis journaliste », il a ce sourire.
Il a un sourire, oui.
Qu'on a vu.
Oui.
Bon, mais qu'est-ce que tu as vu dans ce sourire ?
Alors, donc ce que j'ai vu dans ce sourire, c'est vraiment du mépris, puis il y a un certain malaise de sa part. Je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que quelqu'un...
Carrément pas.
Lui, voilà.
Carrément pas.
Je suis journaliste, donc j'ai aussi le droit de poser des questions aux journalistes, comme il et elle ont le droit de me poser des questions, de me critiquer, etc. Il n'y a aucun problème, tant que c'est factuel et que c'est bien documenté, bien sourcé, voilà. Mais pour le coup, moi, je sais très bien comment ça fonctionne, notamment au service public. Je sais très bien le
C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu sais ?
C'est des gens qui ne sortent pas beaucoup à l'extérieur, qui ne côtoient pas trop, qui ne fraillent pas trop avec la plèbe. C'est un entre-soi. C'est des gens qui beaucoup, je les ai vus, c'est beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres. À plusieurs reprises, je les ai vus, ces journalistes qui se moquent des accents à l'antenne. Ce micro-trottoir, on le prend pas parce que le mec, il sait pas parler français alors
mais
que...
Mais attends, tu mets en accusation le service public, mais tu penses que c'est mieux dans les chaînes privées ?
Non, pas du tout. Mais moi, c'est parce que je connais le service public. Voilà, mais le service public est en train vraiment de... Je veux dire, là, on a perdu en
déontologie, en éthique.
Oui, voilà, pardon, c'est ça. Exactement. Oui, le service public a littéralement perdu en déontologie,
non,
ça
mais attends,
c'est sûr.
C'est drôle, bon, un certain nombre d'années nous séparent. Moi, j'ai connu les rédactions des télévisions il y a une trentaine ou même une quarantaine d'années. Les moqueries sur les accents des gens. Celui-là, on ne le prend pas parce qu'il a un accent à couper au couteau. Le cynisme habituel des salles de rédaction, c'était exactement le même il y a 40 ans.
Eh bien, 40 ans plus tard, rien n'a changé. Et on sent qu'ils sont complètement décalés. Parce que moi, quand j'arrive à ce moment-là, j'arrive déjà avec quand même des bagages. Je n'ai pas fait ce métier tout de suite. Je veux dire, j'ai fait plein de choses avant. J'étais dans la restauration, j'ai fait du ménage, j'ai été fille au père. J'ai un petit peu...
Ce qui n'est pas le cas de la majorité des journalistes, il faut bien le dire.
Oui, ce qui n'est pas le cas. Moi, je suis arrivée très tard, à 26-27 ans dans la profession. Aujourd'hui, j'en ai 30. Mais j'ai fait beaucoup de choses avant. Je me suis... il y a eu un parcours qui, en tout cas, semé d'embûches. C'est pas un parcours classique.
Alors, pour en finir avec la Routureau, après avoir posé ces questions là qu'on a entendues, il est rentré à toute vitesse dans son studio pour les vendre en studio. Sa prestation en plateau. On écoute le retour plateau.
Donc le 7 juillet 2026, Rima Hassan sera jugée du chef d'apologie du terrorisme commis en ligne. Monsieur le ministre Lescure, que vous inspire toute cette affaire ?
Bon, d'abord, il n'y a pas de justice politique en France. Il n'y en a pas, n'en déplaise à Madame Hassan. Deux, depuis le 7 octobre, elle instrumentalise de manière systématique un conflit complexe, un conflit douloureux, un conflit difficile à des fins de politique nationale. C'est un retour de boomerang. En France, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Et donc la justice fera son travail en toute indépendance.
Qu'est-ce que tu vois, là, dans ce retour plateau ?
Encore une fois, c'est d'une indigence, d'une pauvreté intellectuelle, une malhonnêteté journalistique, je dirais même, parce que d'interroger le ministre Lescure, qui effectivement est un ministre en plus d'opposition à Madame Hassan, évidemment, qui il va pas aller non plus trop dans son sens. Et puis de toute façon, c'est au-delà de ça, il a pas du tout, je veux dire, il a aucune compétence pour venir juger
Toi, tu vois le ministre, moi je vois la Routureau, et alors là, je trouve ça absolument passionnant, la manière dont il interroge le ministre.
Comme s'ils étaient proches.
Par rapport à la manière dont il a interrogé Rima Hassan quelques heures plus tôt. C'est-à-dire que là, la question, c'est que vous inspire ce que vous venez de voir ? Dans une question ouverte, dites ce que vous avez à dire. Alors qu'avec Rima Hassan, on n'était pas dans le même style de question.
Non, on n'était pas du tout dans le même style et même dans, je veux dire, la façon de faire. On n'est pas du tout...
Justement.
C'est, on voit que là, bon, il y a une espèce de, je sais pas, de proximité, ouais. complaisance, affection même, amitié peut-être. Ce qui n'était pas du tout le cas quelques heures auparavant lors de cette conférence de presse. Et puis même, il a montré aussi beaucoup de, je veux dire, il n'était pas très respectueux vis-à-vis des confrères et consoeurs dans la pièce hein, également. Donc bon,
mais c'est encore une fois, il avait son bouclage. Tu sais ce que c'est qu'un deadline.
Oui, mais je sais, mais j'ai été au JT de France 2, France 3.
Donc tu sais ce que c'est qu'un deadline.
Je sais qu'il y a un deadline. Mais il y a des façons de faire. Et vraiment, comme là, il y a une façon aussi de faire et donc, qui est différente, effectivement.
Alors, ouais. Quelques jours plus tard, on te retrouve aux Assises du journalisme de Tours.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui t'a déterminé à te rendre dans cette manifestation ?
Eh bien, c'était prévu de longue date. Hein. C'était bien avant, prévu bien avant la conférence de presse. C'est en fait la prépa La Chance pour la diversité dans les médias qui cherchait des personnes pour tenir un petit peu le stand aux Assises.
Ah, c'est ça.
Voilà, donc je me suis dit...
Ils avaient un stand.
Ils avaient un stand, tout à fait. Je me suis dit, bah, pourquoi pas ? Et puis, c'est le moment aussi de venir échanger avec les personnes, les collégiens, les lycéens, les jeunes, les moins jeunes, pour parler aussi de diversité. Je me sens très... à l'aise d'en parler. Donc, et puis je me suis dit, bon, ça va être une première. Mais après, j'ai une collègue, une consoeur qui m'a dit, attention, Khadija, les Assises du journalisme, c'est quand même un entre-soi. Ne pense pas que vas aller vers quelque chose de très bienveillant. Moi, c'est
cet entre-soi, il est partout. Hein.
Mais il est partout.
Il est partout,
oui.
Cet entre-soi.
Oui,
bon.
Oui, il est partout.
Alors, donc tu vas assister à un débat. Alors, parce que l'affaire se déroule en plusieurs jours. Hein. Il y a plusieurs épisodes. D'abord, tu vas assister à un débat auquel participe Camille Langlade, qui est la directrice de l'information de BFM.
Tout à fait. Tout
de
à
BFM.
Fait.
Donc, alors, ce débat, je ne sais pas comment il s'est passé. On ne le voit pas. Tu ne l'as pas filmé.
Non, il n'y avait pas de débat. En fait, c'était une remise de prix éducation aux médias. Voilà.
Une remise de prix éducation aux médias.
Tout à fait. Elle est venue pour...
Bon. Elle fait un discours.
Un discours... Oui. Très bienveillant, totalement à rebours de ce qu'on peut voir à l'antenne très souvent sur le plateau de BFM TV. Et en plus, donc un discours face à des collégiens, à des petits jeunes et beaucoup de noirs et d'arabes, je tiens à le dire, beaucoup de jeunes racisés. Et donc, j'ai vu qu'il y avait quand même là aussi un fossé. Je me suis dit, mais comment cette directrice peut venir ici avec ce grand sourire, comme si elle venait faire quelque chose de bien, alors que depuis des années maintenant, elle laisse dérouler la propagande de Olivier Rafovitch dans...
porte-parole de l'armée israélienne.
De l'armée israélienne, tout à fait, donc à l'antenne, juste après...
Peut-être qu'elle se dit que c'est de l'information.
Non, mais ce n'est pas de l'information.
Ben, non, mais peut-être qu'elle se le dit.
Non, mais non. C'est l'information, le but du journalisme, c'est de donner la parole à tout le monde et de laisser les uns et les autres se faire sa propre opinion. Donc, si on veut faire
de l'information... Je ne suis pas d'accord avec ça.
Bah, si on veut faire
je ne suis pas d'accord avec le donner la parole. Le but du journalisme, ce n'est pas de donner la parole. Le but du journalisme, c'est de recueillir des informations.
Oui.
C'est d'enquêter et de recueillir des informations.
Évidemment.
Ses propres informations.
Tout
et
à
non
fait.
Pas de donner la parole.
Oui, mais quand on est sur un plat...
C'est ce que je suis en train de faire là avec toi, d'ailleurs. Je te laisse parler, mais je ne te donne pas la parole.
D'accord, bah très bien. Ça peut être aussi une très bonne vision des choses. En tout cas, il est clair que pour moi, le journalisme, c'est d'aller sur le terrain. Ça, c'est
voilà.
Quelque chose, on fait pas de débat là-dessus. Il faut aller sur le terrain, il faut aller voir par soi-même et constater des faits, ensuite les rapporter. Ça, c'est ce que j'essaie de faire depuis...
Ça, c'est la base.
Ça fait 3 ans que je fais ça. Ensuite, moi, quand je dis de donner la parole, c'est-à-dire que quand on invite Olivier Rafovitch, par exemple, sur BFM TV, qu'on veut lui poser des questions, soit. Mais dans ce cas-là, il faut aussi donner la parole à des membres du Hamas, qui font partie aussi un petit peu... quand même du sujet, de donner la parole à des Gazaouis, à des civils et à des Israéliens. Et là, on est sur peut-être un débat équilibré, c'est ça que je dis.
Et alors, c'est le sujet, c'est un des sujets sur lesquels tu es venue interpeller Camille Langlade, donc directrice de BFM, oui. À la fin de cette remise de prix. Et on va voir cette interpellation que tu as filmée. Hein,
c'est une consoeur qui m'a filmée.
C'est une consoeur qui t'a
filmée.
Oui,
une journaliste.
C'est un débat démocratique,
ouais.
Journaliste, oui. Ma carte de crédit, ça
ne
dépend
pas.
Non, mais
c'est
pas le sujet,
on
peut
bien
lui
parler après, on
finit
la remise des prix.
Ouais, non, voilà, on va parler de ça, s'il vous plaît. Vous ne donnez pas la parole à Éric Zemmour, c'est très bien. C'est un homme qui a été condamné pour haine raciale, donc je voudrais savoir ce que pense justement Camille Langlade, qui a une responsabilité puisqu'elle est à la tête de BFM TV. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter l'hypocrisie et il faut pouvoir amener justement ces discours-là. Les rédacteurs en chef, les directeurs des rédactions, vous avez une responsabilité justement lorsque vous intervenez ici auprès des jeunes, donc vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de moins des arabes. Quel message vous diffusez lorsque vous invitez sur vos plateaux télé des personnes justement qui sont condamnés pour haine raciale. Donc voilà, et je pense que Madame Langlade a disparu. Voilà, vous fermez la salle. Je voulais juste discuter, j'ai le droit quand même. Oui, mais la cérémonie de remise des prix, c'est le moment de parler, de parler de l'éducation.
Non, 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 il y a des débats tout le temps. Il y a des débats tout le temps, il y a un débat ce soir.
Madame Langlade, elle est encore là demain.
Non. Madame Langlade, vous pouvez lui parler là, mais elle va prendre son train.
En fait. Voilà, elle va prendre son train. Moi, j'ai dit que je voulais parler, elle avait 5 minutes quand même.
Non, là, 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 vraiment, non, elle a
pas
5
minutes. Il y a un débat.
Même pas 5 minutes. Non, mais attendez, vous jouez. Non, mais attendez. Vous moquez de qui?
Non, je pense que là, vous vous rendez pas compte.
Non, je pense que c'est vous qui ne vous rendez
pas compte. Non, vous êtes dans un lieu, vous êtes dans un lieu de débat.
Non, je ne touchez pas, madame.
Oh non, je ne me permettrai pas.
Si,
vous avez juste. Non, mais je voulais simplement vous dire très gentiment, vous avez jusqu'à jeudi soir.
Non, voilà, très bien, je serai là jeudi soir, mais en tout cas, quand
vous êtes sur un ton vindicatif comme ça, alors qu'on est dans un lieu d'échange.
Alors, elle est très intéressante, cette séquence. On y voit plein de choses. Et on pourrait l'appeler, finalement, comment je n'ai pas réussi à interpeller Camille Langlade.
Oui, aussi, aussi, c'est vrai, c'est vrai. J'y suis allée vraiment au culot. De toute façon, c'est comme ça qu'on fait dans la vie, pour essayer de décrocher des interviews. J'y suis allée un petit peu comme, comme le fait très bien aussi Élise Lucet dans, dans son travail d'enquête.
Oui, mais elle leur court après.
Oui, oui.
Si, et elle les attrape.
Oui, elle les attrape. Et moi aussi, je lui ai couru après. Je suis même allée dans le train.
Alors, on regarde.
Oui.
Jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on m'a dit qu'elle allait prendre le train. Moi, je cherche. Hein. Tous les compartiments, c'est un truc de fou. On en est là pour la vérité, quoi. On veut savoir.
Ce qu'on nous a dit, les amis, c'est que toute la semaine, il va y avoir des tables rondes, des débats où on m'a justement invité à débattre à ce moment-là. J'ai cherché dans le catalogue. Les programmes, et effectivement, je n'ai trouvé aucune table ronde qui parle du traitement médiatique catastrophique de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine et à Gaza notamment.
T'espérais vraiment la retrouver dans le train ?
Oui. Ah oui, oui, j'espérais.
C'est pas pour faire une image sympa et rigolote.
Pas du tout. J'espérais vraiment la retrouver dans le train.
Parce qu'on t'avait dit qu'elle prenait ce train-là ?
Oui, on m'a pas dit qu'elle prenait ce train-là, mais en tout cas, on m'a dit qu'elle est partie parce qu'elle doit prendre son train.
D'accord.
Donc, on a regardé les horaires avec ma consoeur que je salue, qui s'appelle Romane Rosso. Et donc, on est parti voir dans le train pour voir si elle y était. Et si elle y était, on voilà, lui posait 2-3 questions. Ce qu'elle a à dire, justement, du traitement médiatique catastrophique concernant Gaza. Pourquoi inviter Éric Zemmour juste après le rassemblement qui a eu lieu en soutien à Bali Bagayoko, qui a été quand même insulté de singe dans CNews. Pourquoi lui laisser plusieurs minutes d'antenne pour qu'il nous dise « Eh ben oui, je ne condamne pas ses propos », alors que monsieur lui-même est un raciste puisqu'il a déjà été condamné pour haine raciale en 2025. Je veux dire, il n'y a aucune valeur journalistique à inviter Éric Zemmour après le rassemblement pour Bali Bagayoko.
Ça, c'est tout ce que tu lui aurais demandé si tu l'avais attrapé.
Oui, je voudrais savoir.
Mais tu ne l'as pas attrapé.
Non, je ne l'ai pas attrapé. Je l'ai interpellé ensuite sur Twitter.
Et alors, ce qui est intéressant, dans la première séquence, on voit son dispositif d'esquive. C'est-à-dire qu'on voit le moment où tu poses une question, elle ne répond pas, et puis tu te laisses entraîner par une discussion avec d'autres personnes et on la voit s'esquiver à l'arrière du plan. On la voit s'esquiver. Est-ce que tu ne te dis pas j'aurais dû la suivre?
Si, si, bien sûr.
J'aurais dû m'accrocher à elle.
Ouais, complètement. J'aurais dû, mais effectivement, je me suis laissée un peu embarquer ensuite vers dans d'autres échanges. Mais
une question professionnelle. Hein,
totalement. Je pense que c'est aussi dû à mon TDAH, probablement. Voilà.
Oui.
Donc,
un trouble de l'attention.
Oui.
Qui a fait qu'à ce moment-là.
J'ai un TDAH, donc je suis en train de me faire diagnostiquer pour voir si j'ai pas un TSA aussi, donc trouble du spectre autistique. Mais ceci explique probablement cela. En tout cas, j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu, et sur le moment, de toute façon, il est clair qu'elle ne veut pas échanger. Donc, les assises du journalisme.
Souvent. Ben, puisqu'on parlait d'Élise Lucet, souvent les séquences d'Élise Lucet, quand la personne qu'elle poursuit ne veut pas échanger, ce refus lui-même est une information. C'est-à-dire, on voit que ce refus du dialogue, ce refus de se laisser interpeller...
On voit que c'est déjà une information. Et puis le sourire quand je lui parle d'Éric Zemmour, quand je lui parle de Gaza, il y a un sourire qui est grandiloquent. Je vous laisse regarder. Hein.
Ah oui.
Un sourire...
Décidément, hein.
Décidément, je ne sais pas. Et c'est ce que je disais à des confrères et consoeurs. Est-ce que je suis devenue un clown? Est-ce que je suis drôle? Est-ce que mes questions sont... Est-ce qu'il y a un caractère humoristique dans ce que je raconte? On parle quand même de milliers de personnes, d'êtres humains massacrés. Quoi.
Je vais te dire un truc que tu vas peut-être pas aimer. La séquence où tu vas la poursuivre dans le train,
oui.
C'est une séquence que je trouve drôle, moi.
Oui, oui. Bah...
Et je la trouve efficace parce qu'elle est drôle.
Oui,
elle m'a fait penser, tu sais, à Michael Moore, des gens comme Michael Moore qui sont des grands documentaristes qui font du documentaire, qui font pas de l'information et qui ont compris que parfois le rire, mettre les rieurs de son côté, mettre parmi les spectateurs et faire rire les spectateurs est une bonne façon de capter l'attention et la sympathie, de mettre un peu les gens de ton côté.
Oui, oui, bah après, je suis comme ça, naturellement.
Tu t'es pas dit que tu faisais une séquence rigolote quand tu vas la poursuivre dans le train?
Non, non, pas forcément. Mais beaucoup de mes amis me trouvent rigolote. Mais ouais. Je sais pas si c'est Louis de Funès qui m'a un peu baigné là-dedans, je ne sais pas.
Ah, parce que non seulement tu regardais Claire Chazal, mais tu regardais Louis de Funès.
Ah oui, moi j'ai grandi avec Louis de Funès. Hein, vraiment, ouais. Louis de Funès qui m'a beaucoup aidé. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Ouais.
Mais tu sais, mais... ce que je me suis dit en voyant ces séquences, je me suis dit, je sais pas si elle est journaliste, mais c'est une formidable documentariste d'intervention, c'est-à-dire ouais. Une documentariste qui va aller elle-même sur des théâtres, se mettre en scène, parce que tu te mets en scène.
Oui, c'est vrai.
Dans la séquence de la gare de Tours, ensuite, quand tu fais ton plateau dans la gare en descendant du train, tu te mets en scène.
Oui, c'est vrai. Pour montrer aussi qui informe, qui fait quoi, puis que les personnes sachent un petit peu à qui elles ont affaire. Voilà. Et puis, c'est aussi intéressant d'avoir des profils un peu comme le mien, des jeunes femmes maghrébines. Voilà, c'est mon identité qui se lance justement dans ce métier-là et qui ont envie de le faire autrement et qui le revendique. Voilà, c'est une autre génération de reporters des terres, moi, je dis.
Alors, suite du feuilleton Khadija Toufik, essaye de trouver du débat aux assises du journalisme de Tours. C'est le lendemain ou c'est le surlendemain. Alors là, c'est un débat sur le mensonge, la vérité de l'information, avec des hauts responsables de France Télévisions aussi.
Là, on est sur un débat, une conférence qui s'intitule « La guerre informationnelle ». Un entre-soi pas possible, encore une fois. Trois heures de discussion entre eux, donc avec même le public, on se demandait si on n'était pas trop. Je me souviens qu'il y avait une citoyenne assise juste à côté de moi qui n'en pouvait plus. Trois heures donc où ils discutent entre eux. Ils ont beaucoup parlé des ingérences russes notamment, mais je me suis dit c'est génial, on va pouvoir parler justement des ingérences israéliennes puisque c'est quand même le sujet du moment. Et pendant trois heures, une conférence qui s'intitule La guerre informationnelle, on ne parle ni d'Israël, ni de Gaza, ni de la Palestine.
Et donc à la fin de la conférence,
oui, j'ai tenu bon, j'ai dit allez, je vais poser mes questions.
Tu interviens.
Oui.
Faites du bruit pour celles et ceux qui pensent que j'ai raison. Voilà, faites du bruit. Il y a quand même des gens qui pensent que j'ai raison. C'est le débat démocratique. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît.
On a le micro, ça. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Concernant le virage très, très à droite de France Info, pour prendre un exemple, notamment lorsque vous aviez fait un espèce de débat en plein génocide à Gaza, sur Gaza, Côte d'Azur, et si c'était possible, alors que plus de 72 000 Palestiniens ont été massacrés par Israël. Et également, votre opinion au sujet du harcèlement moral qui sévit justement à France Télévisions. Vous êtes quand même le service public, donc vous avez aussi des comptes à rendre au public. A priori, on a l'impression qu'à France Télévisions, c'est même pas une impression. Enfin, moi, j'ai travaillé deux ans chez vous et je sais de quoi je parle puisque moi-même, j'ai été victime de harcèlement moral et j'ai fait des mails. Et d'ailleurs, la direction n'a pas souhaité m'immatriculer parce qu'elle estimait que je n'avais pas les codes de France Télévisions.
Alors, donc, tu les interpelles à la fois sur Gaza et sur le harcèlement à France Télévisions que tu as vécu en tant qu'alternante. Sur le deuxième point, le harcèlement que tu as vécu, tu sais bien qu'ils ne peuvent pas te répondre, en fait. Ils ne connaissent pas le dossier, ils ne te connaissent pas.
Moi, je vais juste préciser que là, cette séquence, je pensais qu'on parlait d'une autre séquence qui était la veille, justement, où il y avait cette conférence, la guerre informationnelle. Et là, en l'occurrence, on est sur une conférence qui s'intitule « L'utilité du journalisme ».
Ah, pardon. Oui,
donc, c'était une autre vidéo. Ça, on est à J3, donc le 9 avril. Et effectivement, donc je pose mes questions. Là, je suis face donc à des directeurs, des décisionnaires. Et donc, Pascal Doucet-Bon, directeur...
directeur délégué à l'information.
Délégué à l'information, voilà. Donc quand même délégué à l'information. C'est, normalement, il est censé avoir l'information. Donc, monsieur Doucet-Bon, bon. Qui me connaît très bien.
Ah.
Ah oui, oui.
Et qui connaissait, qui avait,
qui
des,
connaît
qui avait
très
le souvenir
bien.
De ton passage
mais
à France Télévisions.
Mais bien sûr.
Ah bon.
Ah oui.
C'est-à-dire que tu avais des contacts personnels avec lui.
En fait, non, enfin. pas personnel, mais j'avais tweeté à l'époque sur Éric Zemmour et je me suis pris un cyberharcèlement de la fachosphère. Et à l'époque, donc France Télévisions m'avait demandé de retirer mon tweet, etc. Il n'y avait même pas eu de soutien. Voilà, ils ont.
D'accord.
Moral, ni
et
rien
Pascal
du tout.
Doucet-Bon
et Pascal Doucet-Bon, tout de suite après, avait fait justement un mail pour. Une formation sur le cyberharcèlement. Donc, je suis connue à France Télévisions. Tout le monde me connaît à France Télévisions parce que, dès le départ, j'ai aussi posé des limites et j'ai demandé à ce qu'on respecte les êtres humains qui travaillent dans cette maison.
Donc, bon, non, parce que là, il fait semblant de ne pas te connaître.
Oui,
là.
Il fait semblant de ne pas me connaître. Mais c'est toujours comme ça. Donc, voilà. Je le connais, moi, de nom et il me connaît très bien. Et à l'époque, il y a même une consoeur dont je tairai le nom pour la protéger, elle. Mais une consoeur qui lui avait demandé justement à ce que je puisse être mieux protégée par rapport au cyberharcèlement de la fachosphère, etc. Et lui avait dit, a priori, non, mais voilà, on va pas se lancer là-dedans.
Et organiser une formation sur le cyberharcèlement, c'était pas une manière indirecte de protéger la rédaction contre le cyberharcèlement ?
Non, je ne pense pas. Ça, c'est mon avis personnel, je ne pense pas. J'ai pas du tout été protégée, il n'y a pas eu de soutien moral, affectif. J'ai reçu deux pauvres SMS de mes rédactrices en chef, mais je veux dire, ce moment-là, je l'ai vécu seule, isolée, et justement, à l'époque, c'est là où je me suis rendu compte que le cyberharcèlement, c'est pas OK, et encore moins le harcèlement au travail. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je suis allée voir la direction et j'ai dit le cyberharcèlement, c'est pas OK. Et le harcèlement dans mon service, c'est pas OK non plus. Donc j'essaie de m'imposer, de poser des limites et de poser un cadre. Il faut qu'ils comprennent aussi qu'on est on est dans un autre monde. On n'est plus dans les années je ne sais combien. Aujourd'hui, il y a d'autres gens avec des revendications et il se trouve qu'il y a des jeunes comme moi, entre guillemets, si je puis dire, qui refusent de se soumettre à ces dictats, à ces codes
alors,
qui pourrissent les gens. Ça pourrit les gens. Ça les détruit.
C'est vrai que quand on te voit là intervenir, on a du mal à penser que la même a pu faire des sujets parfaitement formatés pour les journaux télévisés de France Télévisions.
Oui.
La même.
Ah oui, oui, oui.
Exactement la même. Comme oui. Par exemple, donc en 2022, pour France 3, ce sujet sur l'électronisme. On va en passer un court extrait.
Claire et Iliès font partie des 12 millions de Français dits électroniques. Ils n'arrivent pas à utiliser les plateformes administratives. Pourtant, ils sont très à l'aise sur les réseaux sociaux. Filmer et monter des vidéos ne leur prend que quelques secondes.
Tout est simplifié, tout est rapide, enfin, y a pas...
Ils nous facilitent la vie, les réseaux
sociaux. Exactement.
En France, près de 30% des 15-29 ans se déclarent incompétents en matière d'administration numérique. Selon cette experte, c'est d'abord une question de vocabulaire.
Voilà, ou un an plus tard, en 2023, un sujet fort intéressant sur un éclusier.
Oui.
Dans le Lot à Bouziès, il faut sortir les biceps pour tourner la manivelle.
Ah oui, bah ça c'est 400 tours par porte. Et en moyenne, l'éclusier qui est là l'été, il fait ça entre 40 et 60 fois par jour, suivant les passages.
Pour cette saison, c'est Pierre-Emmanuel Vidic, 32 ans, qui est chargé de l'écluse. Ce marin de formation a été embauché par une agence de croisière.
Ben, quand on voit ces sujets, qui sont vraiment parfaits, ces sujets pour le 19-20, on se demande pourquoi ils t'ont pas gardé, quoi.
Eh bien, pour toutes ces raisons, pour tout, voilà, oui, les assises...
Pour tout ce qui s'est passé hors...
Ouais.
hors
non, hors, mais je ne correspond pas au profil qu'ils recherchent. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de me codifier, de me formater comme ils ont voulu. Ça n'a pas pris, ça, marchera pas, ça
et,
ne marche pas.
Et d'ailleurs, tu m'as dit qu'il y avait une différence intéressante entre tes premiers et tes derniers sujets pour France Télévisions.
Oh oui, oui, oui. Mais en fait, je me suis réécoutée sur d'autres sujets au milieu. Et en fait, des fois, mon accent du Sud revenait, des fois non. J'ai vraiment essayé de le gommer parce qu'il
t'as essayé
imposé.
De le gommer.
J'ai essayé. Des fois, c'était bien. Il me disait, des fois, non. Tu
mais
chantes
il te faisait
trop.
Remarquer.
Ah oui, oui.
Il te le faisait remarquer.
Tu chantes trop quand tu parles. Quand tu poses ta voix, tu chantes trop. Il faut l'enlever, il faut le gommer, cet accent. qui c'est pas bon. De toute façon, je pense que si vous écoutez tous les soirs le JT de 20h ou même de 13h, les voix se ressemblent peu ou prou. Moi, je les reconnais parce que je connais ces journalistes, mais c'est voilà, c'est formaté, c'est les mêmes voix, faut pas trop que ça sorte du cadre, etc.
Mais t'as fait l'effort.
Oui, moi, j'ai fait l'effort. Hein. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Je veux dire, dans le cadre professionnel, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, que ce soit des micro-trottoirs qui sont complètement tirés par les cheveux, où on nous demande d'aller voir des gens qui se plaignent parce qu'il y a pénurie de moutarde, alors qu'en réalité, des moutardes, on en trouvait. Voilà. J'ai essayé de faire
ça.
Ouais, j'allais chercher vraiment des gens qui se plaignaient. En fait, c'est comme chercher une aiguille dans une boîte de, voilà, dans une boîte de foin, on dit.
Mais alors, c'est dans une boîte de foin, oui. Mais alors, si on trouvait de la moutarde, comment ça se fait qu'il y a des gens qui se plaignaient de la pénurie de moutarde? Comment tu faisais pour trouver des gens qui se plaignaient de la pénurie de moutarde alors qu'il y avait de la moutarde?
Parce qu'il fallait vraiment trouver le magasin où il n'y avait pas forcément une moutarde, voilà, mais c'est faux, et puis en fait ça fait peur aux gens, on voit bien que c'est pas du journalisme, les gens après vont se dire il n'y a plus de moutarde, ils vont peut-être acheter des moutardes en stock, et en fait à ce moment-là...
Mais tu l'as fait, ce sujet, tu l'as fait.
La moutarde
on te l'a demandé, tu l'as fait.
Ouais, j'ai fait.
En sachant que c'était manipulatoire.
C'était manipulatoire,
c'était faux.
Il y avait beaucoup de choses comme ça, et souvent on me demandait de partir sur des micro-trottoirs, et il faut que les gens te disent ça.
Par exemple.
Bah, par exemple, sur les prix, oui, je trouve que les prix ont augmenté sur ce produit-là. Il faut que les gens te disent que ça a augmenté sur ce produit-là. Oui, par exemple. Et en fait, quand j'y allais, les gens disent non, j'ai pas trouvé de différence, c'est pas comme ça. Et puis là, je me disais, on n'est vraiment pas dans du journalisme, en tout cas, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Pour moi, en fait, c'est plutôt aux personnes de nous dire ce qu'elles vivent et ce qu'elles ont à nous raconter. C'est pas à moi d'aller imposer une réponse. Là, on est... Et beaucoup de JRI que je salue d'ailleurs, de JRI se plaignaient beaucoup aussi. Les journalistes reporters d'images qui sont à la caméra, ils n'en pouvaient plus en fait de ces micro-trottoirs. Et c'était marrant de partir avec eux. On se soutenait moralement, mais j'essaie de faire tout ce que j'ai pu. J'avais pas forcément mon mot à dire à ce niveau-là. Souvent, c'était plutôt les JRI qui gueulaient, qui disaient « Non, mais moi, je fais pas un sujet comme ça. Vous mettez pas mon nom dans les crédits. Non. »
Et dans ces cas-là, quand ils voulaient pas mettre leur nom n'apparaissait pas ?
Oui, ils apparaissaient pas. Oui, oui. Ils disaient « Moi, je veux pas mon nom sur un sujet pareil parce que c'est pas du tout journalistique. C'est à rebours de ce que nous impose la déontologie, la charte de Munich. » Mais moi, j'essaie de faire ce que j'ai pu, j'essaie de trouver ce que j'ai pu, voilà.
Bref, à la sortie, on t'a dit, écoute, t'as pas les codes.
J'ai pas les codes,
Et de fait, si je comprends bien, tu t'es pas battue pour rester.
Si j'allais me battre pour rester ?
Pour rester à France Télévisions.
Non, moi, ce que je voulais, c'était quand même l'immatriculation parce que j'estimais que j'avais beaucoup travaillé pendant 2 ans. Je m'étais donnée à fond. Hein. J'ai même fait un burn-out. J'ai eu de graves soucis de santé parce que je ne comptais jamais mes heures. C'est un métier passion, évidemment. Mais là, pour le coup, il y avait vraiment un manque de respect, un manque de reconnaissance de la part de la direction qui maltraitait les alternants quand j'y étais. Je les ai vus à l'œuvre et ils reproduisent les mêmes schémas. C'est juste inhumain de traiter des êtres humains comme ça. Je veux dire, on ne mérite pas ça. On a fait de grandes études. Et puis même si on n'avait pas fait d'études, on ne traite pas les êtres humains comme ça. Moi, il était hors de question. Je pense qu'ils attendaient peut-être que j'arrive totalement soumise et que je les remercie de m'accueillir à France Télévisions. Moi, je suis arrivée toute seule dans ce métier-là. Personne n'est venu me chercher dans ma cité pour me dire « Khadija, tu vas faire du journalisme ». Moi, j'y suis arrivée parce que j'ai travaillé très dur. Mais encore une fois, la méritocratie n'existe pas. J'y suis arrivée parce que c'est un coup de chance aussi, d'une certaine manière. Voilà, c'est tombé sur moi, mais en tout cas, il était hors de question que je baisse la tête et que je sois soumise. C'est pas possible. On respecte les gens, c'est tout. Moi, on m'a pris le respect.
Alors, à la sortie de France Télévisions, donc tu décides de t'investir en Israël et en Cisjordanie.
Oui, tout de suite. C'est-à-dire, 2 jours après, je prends un billet d'avion aller sans retour direction l'aéroport de Ben Gourion. Donc à Tel Aviv, connu sous le nom de Yaffa par les Palestiniens, pour les Palestiniens. Et donc, je ne sais pas trop.
Mais avec un projet précis ?
Pas du tout. J'y vais déjà pour retrouver des personnes que j'avais croisées quelques mois auparavant, en juillet 2023. J'y vais...
Sur place, là-bas ?
Oui.
Parce que tu y étais déjà allée en tant que touriste ?
En tant que touriste, tout à fait. D'accord. Une semaine en juin 2023, 2 semaines en juillet 2023 et septembre 2023, la suite logique. Bye bye France Télévisions.
Septembre 2023. On est en septembre 2023.
Et tout à fait. On est en septembre 2023.
Pour ceux qui auraient du mal à situer, septembre, c'est avant octobre. Et notamment avant le 7 octobre.
Et oui, tout à fait. Donc j'y vais au débeauté. Je ne sais pas trop ce que je vais chercher, mais en tout cas, je vais continuer de discuter avec des personnes, de faire des rencontres. voilà, j'avais fait de très belles rencontres et j'avais envie de revoir aussi ses connaissances. Donc, il n'y avait pas trop de projets à ce moment-là.
Et là-dessus, tu as un billet de retour, si j'ai bien compris.
Pas du tout.
Qui est prévu pour le 7 octobre.
Le billet de retour, je l'ai pris le 6 octobre.
Tu l'as pris le 6 octobre pour le 7.
Ouais, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais sur la plage de Yaffa, donc à Tel Aviv, avec un ami palestinien de Jérusalem-Est. Et je lui dis, je pense que je vais rentrer en France parce que voilà, j'ai fait un peu le tour. En plus, au niveau finance, ça commence à être compliqué, évidemment. Et il me dit, oui, tu as raison, il vaut mieux prendre ton billet, il faut que tu rentres voir ta famille. Et donc, le 6 octobre au soir, je prends le billet pour le 7 octobre au soir.
Et on va faire court, tu n'as pas pris cet avion.
Jamais. j'ai pas pris cet avion alors que j'étais à l'aéroport et j'étais prête à embarquer.
Ah oui,
j'étais prête à embarquer, mais je reçois un coup de fil de TV5 Monde. À ce moment-là, qui me demande de faire un duplex. Et donc, je fais demi-tour. Tout de suite, je réfléchis pas vraiment.
Tu fais le duplex à l'aéroport ?
À l'aéroport, oui.
Qu'est-ce que tu dis ?
Je dis qu'on me pose des questions, que s'est-il passé ? Voilà, c'était l'opération. À ce moment-là, le Hamas avait lancé l'opération Al-Aqsa, déluge Al-Aqsa. Et donc, j'explique juste le ressenti des Israéliens. Donc, c'est le stress, c'est la panique à bord, un climat très anxiogène. Personne s'y attendait. Les gens se demandent pourquoi. Israël n'a pas vu, etc. Voilà. De manière très factuelle, je raconte ce que j'ai vu, ce qu'on me dit. Et tout de suite après, le soir même, je vais à Jérusalem. Et je refais un duplex le lendemain pour TV5. Et puis après, plus nouvelle, je suis livrée à moi-même et il n'y a plus d'avion pour rentrer en France.
Bon, et donc là, on ne va pas raconter jour par jour tout ce que tu as fait.
Ouais.
Dans tout cet intervalle de temps, donc tu t'es rendue en Cisjordanie. D'ailleurs, on te voit, tu t'es filmé entrant dans ta peau de reporter de guerre, découvrant ton gilet pare-balles, mettant ton gilet pare-balles. Alors, on ne va pas passer toutes les images, mais enfin, on te voit arriver sur des lieux d'affrontement, de fusillade.
Ça, c'est venu après. C'est arrivé vraiment en mai 2024.
D'accord.
Où là, je vais aller sur des zones où je sais que je peux y risquer ma peau, mais surtout des zones qui, je sais, vont me perturber pendant longtemps. Et là, il faut se préparer psychologiquement parce que là, on rentre dans le dur. Hein. Même Ramallah, il y a souvent des attaques de l'armée israélienne, mais Jenin, Toulkarem, Naplouse, les camps de réfugiés, Massa Fariata, Oum el-Khir, Al-Mourayer, toutes ces zones-là, on sait que là, on va voir des choses qui sont très, très difficiles. On va assister à des horreurs qu'il va falloir documenter, raconter de manière très factuelle et très précise en réhumanisant les Palestiniens. Et tout ça, il faut le préparer. Donc moi, après le 7 octobre, je suis sortie en fait, j'ai quitté le territoire en novembre 2023, je me suis préparée, donc il faut voir, il y a toute cette préparation donc, de novembre 2023 jusqu'à mai 2024, où là je me prépare psychologiquement, je vais faire un stage même avec l'armée française, un stage d'une semaine pour justement avoir tous ces codes de reporter de guerre, être bien sûr de soi.
Qu'est-ce qu'on t'apprend dans ces stages ?
On nous apprend à survivre lors d'une prise d'otage, à survivre avec peu de moyens, peu de nourriture, à comment aborder justement les parties au conflit, etc. Comment on discute avec les personnes. On nous apprend, il y a des codes, mais bon.
Ça t'a été utile ?
Un petit peu, oui. Il y a des choses que j'ai apprises quand même. J'ai appris beaucoup, mais en fait... Quand on est face à un soldat israélien, quand ça tire à balles réelles, je veux dire, en fait, il n'y a pas vraiment de code. Par contre, ce que je tiens vraiment à préciser, les journalistes palestiniens, notamment de Jenin, c'est eux qui m'ont véritablement formé au terrain palestinien. Eux, vraiment, ils ont tous les codes, ils savent très bien ce qu'ils font. Et par exemple, ils m'ont appris qu'il ne faut jamais, jamais se déplacer seul sur une zone de guerre où il y a l'armée israélienne. Il faut se déplacer en groupe avec les journalistes. Quand des soldats arrivent ou quand il y a des jeeps qui arrivent, il faut être bien ancré au sol et montrer son appareil photo, ne surtout pas essayer de se cacher, d'avoir peur, etc. Parce qu'ils pourraient considérer qu'on est des terroristes, mais même de toute façon, même,
cela dit, ils ont tiré sur des voitures de presse avec l'écriteau presse, ils ont tiré sur des reporters de guerre qui portaient des gilets pare-balles avec écrit presse, ça les arrête pas parfois.
Tout à fait, ils ont d'ailleurs blessé un confrère qui s'appelle Mohamed Mansour à Jénine, qui avait effectivement l'écrit au presse sur sa voiture, qui avait même son casque et son gilet. Et c'était ça en octobre-novembre 2024.
Tu as travaillé pour qui dans cette période-là? Quels étaient les médias qui t'ont employé?
Alors, j'ai travaillé pour Orient 21, L'Orient Le Jour, Libération, Mediapart, Blast ensuite.
C'est-à-dire aussi bien en audiovisuel, en images qu'en écrit?
Là, c'était que de l'écrit ensuite.
Ah, c'était que de l'écrit?
Que de l'écrit. D'accord. À l'époque, je ne faisais pas trop sur les réseaux sociaux. Je ne documentais pas parce que j'avais déjà besoin de bien connaître le terrain, d'être sûre de moi, d'apprendre aussi pour pouvoir ensuite raconter tout ce que je vois, tout ce que je sais au monde. Mais la vidéo, j'ai commencé à en faire très tardivement, c'est-à-dire en juillet 2025.
Avec un peu de recul, là, comment t'évalues le travail que t'as fait sur le terrain? Est-ce que tu penses qu'il a été utile? Est-ce que tu penses que tu as apporté quelque chose à la connaissance du public français?
Faire une autocritique de soi-même, de son travail, c'est toujours très difficile. En tout cas, je laisse le public se faire sa propre idée, sa propre opinion. Et en tout cas, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent de continuer sur ces formats-là, à documenter sur les réseaux sociaux, parce que justement, c'est de l'info brute, c'est des images qu'ils ne voient pas forcément à l'antenne, c'est une autre façon de faire du journalisme, une autre façon de donner de la voix aussi à toutes ces personnes marginalisées, toutes ces personnes qu'on invisibilise dans nos médias. Mais en tout cas, moi, j'ai des retours où on me dit que c'est bien, d'autres qui me disent que ce n'est pas bien parce que j'ai aussi documenté des réalités côté Israël. Donc il y a des gens qui ne sont pas très contents.
Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Voilà. Tu n'as pas seulement tourné en Cisjordanie avec des Palestiniens, tu as aussi tourné, enfin pas tourné puisque c'était de l'écrit.
Et aussi tourné aussi.
Et tourné aussi.
Ouais, j'ai fait les deux.
Donc tu as aussi enquêté et reporté auprès d'Israéliens.
Ouais, tout à fait. Alors,
j'imagine pas n'importe quels Israéliens.
Effectivement, j'ai documenté aussi ces réalités de vie. Et je trouvais que c'était plus intéressant de leur donner la parole que de donner à chaque fois la parole à des génocidaires, très clairement, je pense qu'on les entend suffisamment. Et j'ai suivi, de toute façon, j'ai commencé à les suivre déjà dès 2024, des refuseniks, donc des objecteurs de conscience. Donc ce sont des Israéliens qui refusent de s'enrôler dans l'armée à l'âge de 18 ans, puisque l'armée est obligatoire en Israël. Et pour cela, ils vont être emprisonnés, donc ils préfèrent aller en prison plutôt que de servir l'armée, ou plutôt même que de faire un certificat médical et de ne pas y aller. Donc je trouvais que c'était intéressant de le raconter. De toute façon, je suis journaliste, donc moi, mon travail, c'est vraiment de relater des faits, de raconter le monde tel qu'il est aussi. Et c'est effectivement important pour un ou une journaliste de raconter aussi ces réalités-là et de ne pas les occulter volontairement.
Ouais, c'est non seulement important, mais à mon avis, nécessaire. On a entendu depuis le début de l'émission que tu es quand même très critique sur le traitement par les médias français du Proche-Orient et de Gaza et du Liban, à juste titre, parce que, enfin, je veux dire, c'est pas ici sur Arrêt sur Image qu'on va dire que ce traitement a été super. Cela dit, il y a parfois pour être parfaitement juste, il y a parfois des enquêtes tout à fait intéressantes et courageuses. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu cette enquête qui a été diffusée par le 20h de France 2, c'était hier soir ou avant-hier soir, sur l'assassinat ciblé de secouristes libanais. Tu l'as vu?
Oui, bien sûr.
Cette enquête.
Oui, oui.
Donc, c'est une enquête longue. Hein, bien 5 minutes 5 minutes 32 au 20h, où les journalistes, donc c'est deux secouristes qui ont été bombardés, je pense que c'est par un drone, alors qu'ils étaient sur un scooter. C'était vraiment des secouristes identifiés comme secouristes. Et donc les journalistes ont cherché à savoir ce qui s'était passé. Ils ont interrogé opiniâtrement l'armée israélienne. Ils montrent là leurs échanges textos. Ce qui veut dire que parfois, même dans le système, au cœur du système, parce que le 20h de France 2, c'est vraiment le cœur du système, on peut bosser.
Oui, on peut bosser. Bien sûr qu'on peut travailler.
Ça ne te donne pas de regret de ne pas y être resté?
Ou ça, en Palestine?
Non.
À France Télévision,
à France Télé. Parce que en même temps, c'est énormément de moyens. Ils y ont passé je ne sais combien de jours, à plusieurs, mais
Non, mais de toute façon, c'est Maryse Burgot qui a fait le sujet. Donc Maryse Burgot, c'est quand même une ancienne de France Télévisions. Il faut attendre, je pense, des années avant d'arriver sur ces terrains, ou alors il faut être pistonné. Donc moi, j'ai pas le temps d'attendre plusieurs années avant
de faire... Maryse Burgot, elle fait du terrain depuis des décennies.
Oui, bien sûr. Bien sûr qu'elle fait du terrain depuis des décennies, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est là depuis des décennies. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle peut faire ce sujet-là.
Mais elle a commencé à faire du terrain, elle a commencé à faire ce genre de sujet depuis
des décennies. Depuis c'est pour ça qu'il faut attendre des années avant de pouvoir traiter de ces sujets.
Ben non, justement, elle n'a pas attendu des années puisqu'elle a commencé, elle a fait ce travail-là dans ça.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est Maryse Burgot qui le fait, c'est pas d'autres journalistes. Il y en a pléthore,
Pourquoi tu ne serais pas devenue une Maryse Burgot ?
Parce que non, mais.
Qu'est-ce qui t'empêchait de devenir une Maryse Burgot ?
L'ascenseur social est en panne. Donc c'est très compliqué pour les journalistes comme nous.
T'avais gravi la première marche.
T'étais
au cœur du système.
Oui. Mais encore une fois, j'ai refusé qu'on me formate. J'ai refusé de qu'on me formate. Il y a des moyens, des façons de faire, à France Télévisions qui ne correspondent pas à l'éthique que je me fais du journalisme. C'est pas possible.
Mais qui peuvent donner ce genre de résultats.
Oui, mais au bout de combien d'années ? C'est pour ça que je précise, c'est Maryse Burgot qui a fait ce sujet. Maryse Burgot, elle fait du terrain depuis très longtemps. Et effectivement, elle, aujourd'hui, en plus, c'est un sujet, c'est juste normal d'avoir un sujet comme ça. C'est pas un exploit, c'est juste du journalisme, quoi. Tout le monde sait. Tout le monde a dit c'est incroyable, enfin, il y a un super sujet. Et enfin, ça fait combien d'années maintenant qu'on n'a pas des sujets de qualité comme celui-ci ? Je veux dire, c'est juste du journalisme. C'est pour ça que moi, j'ai pas du tout douté. Pour moi, c'était juste normal de faire son travail. Ils ont juste fait leur travail. Mais encore une fois, c'est pour ça que je précise, c'est Maryse Burgot. Il y a très peu de grands reporters comme ça dans les journaux télévisés.
Il y en a très peu, mais il y a très peu d'enquêtes comme celle-ci, en tout cas.
Oui, comme celle-ci. Mais en fait, je veux dire, les autres, c'est Dorothée Oliéric. Citez-moi, encore une fois, un noir, une arabe, une asiatique, grande reporter comme ça, qui défraye la chronique d'une certaine manière ou qui a sa place, qui a une grande place comme ça dans
tu
les journaux.
Tu penses que tes origines sociales t'interdisaient...
Pas m'interdisait, mais ça aurait été plus long. C'est plus long pour nous, c'est comme ça. Il y a des études de sociologie qui le démontrent. Je veux dire, même le dernier rapport de l'ARCOM le dit, c'était en 2024, 15% des personnes perçues comme non-blanches ont occupé nos écrans. Voilà, c'est 15%. 85%, tout le reste, c'est des personnes qui sont perçues comme blanches. Donc, il y a un moment donné, oui, c'est plus long pour nous. Mais il y a un moment donné, moi, je ne vais pas accepter qu'on me formate parce que le formatage, c'est une forme de manipulation. On essaie de nous modeler comme le veut la direction, comme le veut les rédacteurs en chef, etc. Moi, il est hors de question qu'on me manipule. Ce n'est pas comme ça qu'on fait du journalisme.
Depuis le début de cette émission, tu as remarqué que je te taquine.
T'as
remarqué.
Oui, mais c'est très bien, moi, ça.
Et que parfois, je joue l'avocat du diable.
Mais c'est bien, tu fais très bien ton travail.
Puisque le diable n'est pas là. Mais est-ce que, parfois, il n'est pas nécessaire de faire comme Picasso ? Faire comme Picasso, c'est-à-dire d'accepter à un moment un certain formatage et pour ensuite éclater les éclater.
Je l'ai accepté, mais quand il y a un tel manque de respect envers les collaborateurs à France Télévisions, quand on tire sur la corde, quand on se moque de vous, quand on vous dénigre, quand on ne vous dit pas bonjour, moi, il y a un moment donné, j'ai pas du tout le temps aujourd'hui, je n'ai plus le temps d'aller dans le sens du poil, j'ai pas le temps de faire le dos rond, il y a un moment donné, je pense que j'ai suffisamment arrondi les angles, j'étais bien patiente, moi je vais pas attendre 20 ans qu'on me donne une place pour que j'aille raconter ce qui se passe au Liban.
On a bien compris.
Voilà.
On a bien compris.
Moi demain, si je vais aller au Liban, j'y vais et je fais ce reportage-là,
mais tu sais pourquoi tu le feras pas ?
Pourquoi ?
Parce que c'est aussi une question de moyens. Parce que là, ils ont mis 10 personnes. Tu regardes le générique de fin, il n'y a pas 10 noms, mais il y a au moins 6 ou 7 noms.
Oui.
Ils ont mis une équipe conséquente. Ils ont pris le temps qu'il faut pour arriver à ce... C'est du temps.
Mais c'est du temps, c'est des moyens qui
et
sont...
Et c'est des moyens.
Et voilà, moi, je tiens quand même à le souligner. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis quand je ne pige pas, je suis à 450 euros de chômage. Israël a révoqué mon visa sans justification. Donc, j'ai perdu aussi mon emploi en Palestine et donc en Cisjordanie occupée. Aujourd'hui, j'essaie aussi de me refaire, si je puis dire, une santé mentale, ce qui est important parce que ça fait 3 ans que je suis dans le tunnel et je dirais même 5 ans au final parce que j'étais aussi, pour moi, sur une zone de guerre psychologique à France Télévisions.
Tu penses que tu seras blindé un jour ?
Oui, mais bien sûr. On est des êtres humains. Il y a des moments où on est très fort et il y a des moments où on faiblit parce qu'on est humain, c'est tout. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Moi, je sais que je peux aller puiser en moi du courage, de la force, etc. Mais je n'ai pas honte de dire qu'il y a des fois, voilà, je suis fatiguée. Aujourd'hui, j'ai besoin de penser aussi à ma santé mentale. J'ai besoin de me reposer un petit peu pour recharger les batteries et aller encore sur des terrains comme ça où je vais pouvoir travailler et fournir de l'information.
Alors, dans le même temps où France 2 diffusait cette enquête sur des secouristes libanais ciblés en tant que secouristes libanais. On apprenait que Israël avait également tué une journaliste libanaise, Amal Khalil.
Oui.
Et sa consoeur
Zeynep Farage,
photographe. Je voudrais te faire entendre la manière dont cet assassinat a été évoqué sur BFM le soir où on l'a appris.
Mais d'abord, il nous faut évidemment avec vous ce soir parler du Liban avec une toute dernière information.
Oui, parce qu'une journaliste libanaise a été tuée dans une frappe israélienne dans le sud du Liban, dans la ville d'Al-Tiri. Elle s'appelait Amal Khalil. Elle travaillait pour le journal Al-Aqdar en tant que correspondante au Liban et elle a été retrouvée dans les décombres par des ambulanciers, escortés par l'armée libanaise.
Je vois votre réaction à cette information.
Alors, Al-Aqdar, c'est un journal proche du Hezbollah. Et les Israéliens ont l'habitude de dire que les journalistes qui travaillent avec le Hezbollah sont des espions, qui travaillent pour le Hezbollah. Donc là, c'était ciblé. À partir du moment où on donne le nom du journal, c'est ciblé. C'est clair, net et précis. Et Al-Aqbar, bah, je l'ai un petit peu consulté aujourd'hui, effectivement, déjà. Oui, c'est très, très, très pro-Hezbollah.
Est-ce que c'est une information pertinente de dire que cette journaliste assassinée par les Israéliens travaillait dans un journal proche du Hezbollah ? Est-ce qu'il faut le dire ?
On peut le dire parce que c'est une information, mais ce n'est pas la première information. La première information à donner, c'est qu'au regard du droit international, un journaliste est un civil. Peu importe pour quel journal, quel média il travaille, peu importe la ligne éditoriale, ça reste un civil. C'est un journaliste qui fait son travail d'enquête, de documentation, qui va sur le terrain, qui rapporte des faits. C'est ça la première information. Ensuite, on peut parler éventuellement de la ligne éditoriale. Ça, c'est une information qui vient bien après. Évidemment, la ligne éditoriale proche du Hezbollah, je veux dire, pourquoi pas, je veux dire, les Libanais font ce qu'ils veulent. Et là aussi, il faut donner du contexte. Qui est le Hezbollah ? Pourquoi le Hezbollah a été créé ? Le Hezbollah a été créé en réaction, justement, aux attaques terroristes de l'armée israélienne. Donc voilà, c'est comme le Hamas. Le Hamas a été créé justement en réaction aux attaques terroristes de l'armée israélienne. Il faut le rappeler. Donc le Hezbollah, il n'a pas été créé comme ça. Je veux dire, ça ne sort pas du chapeau. Il faut pouvoir aussi contextualiser. Donc, voilà, encore une fois, on ne fait pas son travail de journaliste sur ces plateaux télé. On n'a pas l'information. Et la première information, c'est un journaliste est un civil et il doit être protégé.
Ce qui n'a pas... En gros, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Mais est-ce qu'il n'a pas été rappelé, en effet, à chaud hier soir sur le plateau de BFM.
Maintenant, voilà. On est face, vraiment, encore une fois, pour moi, il s'agit d'un effondrement moral, intellectuel. C'est l'effondrement de la déontologie journalistique, de l'éthique. On n'a pas l'information sur ces plateaux télé, la grande partie du temps. C'est des mots, encore une fois, des mots... comme dit très bien, le dit très bien ma consoeur Mona Hamoud, qui est journaliste d'ailleurs libanaise, elle le dit, c'est des mots écrans. Voilà. Il y a les méchants, il y a les gentils, le Hezbollah, Israël qui essaie de se protéger, etc. C'est pas ça, la réalité, elle n'est pas là du tout. On parle d'une journaliste, on parle du Hezbollah. Franchement, je pense que c'est une période très difficile là, qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Vraiment, je ne sais pas si on se rend bien compte de la gravité des faits, de la gravité dans la situation dans laquelle on est.
Comme il faut terminer l'émission sur une note optimiste.
Si je peux juste préciser ouais. que quand même Israël, depuis le 13 octobre 2023, a assassiné au total 24 journalistes au Liban. Donc 24.
Depuis le 13 octobre.
Depuis le 13 octobre. Et à Gaza, on est à 320 journalistes au moins.
C'est bien de le préciser. Comment on peut espérer renverser le courant?
si tu me lances là-dessus, bah comment il faut utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux. Voilà. Je pense d'autres plateformes, que ce soit des plateformes de stream, YouTube, les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok, bon, on est un peu plus censuré, même X, donc anciennement Twitter. Il faut utiliser ces plateformes-là pour faire du journalisme, pour justement venir contrer tout ce que disent ces toutologues sur les plateaux télé et toutes ces personnes qui sont vraiment mais très loin des réalités et qui visiblement n'ont pas fait de terrain. C'est malheureux, mais je pense que malheureusement, on n'a pas de conseils des journalistes un peu comme ce qu'ils ont les médecins pour justement venir sanctionner.
Un ordre des journalistes.
Mais il faut voir encore qui le tiendrait. Oui. C'est pour ça qu'ils ont préféré.
Ça poserait de nombreux problèmes.
Je pense, ouais.
De nombreux problèmes.
Après, c'est eux et leur conscience, mais moi, franchement, j'aurais honte. J'aurais honte.
Merci.
Merci beaucoup.
Je t'ai laissé parler.
Oui, merci beaucoup, Daniel.
Parfait.
C'était super, ouais. Merci beaucoup de m'avoir donné un peu de voix et j'encourage les étudiantes en journalisme à faire de même et à avoir vraiment ce courage-là. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul et vous pouvez
faire... Mais à faire de même, c'est-à-dire à faire quoi ?
Ben, à faire du vrai journalisme.
Mais où ?
Ils le verront, ils vont le sentir de toute façon, mais il y a d'autres manières de faire. On n'est pas...
Par exemple, est-ce que tu les encouragerais à solliciter des postes à France Télévisions ?
Non. Ben, ça dépend ce qu'ils ont envie de faire après, c'est à eux de voir. Voilà. Mais s'ils ont envie de faire du vrai journalisme, c'est-à-dire du journalisme de terrain, donner la parole aux citoyens, aux civils, etc. Et pouvoir mettre du contexte dans tout ce qu'on raconte aujourd'hui, vraiment, je les encourage à se lancer sur les réseaux sociaux.
Ok, merci.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir suivis, à bientôt.